Tu l'as dit, Dan, des difficiles nouvelles pour les partisans des Nordiques au cours des dernières heures. Les Hurricanes de la Caroline sont vendus. Et là, la porte est grande ouverte aussi pour Seattle. François Gagnon de RDS a assisté au point de presse de Gary Bettman en Floride hier. Il est au bout du fil. Bonjour, François.
Bonjour, Eve-Marie.
Bon, ben, Canadiens Nordiques, ça va attendre, hein?
Ben, oui, ça va attendre. Puis, écoute... Ceux et celles qui prétendaient que c'était sur le point d'arriver depuis quoi, là, ça fait 4-5 ans que ça dure, là, ces rumeurs-là, ben là, j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu et puis qu'ils vont réaliser disons que les astres sont pas vraiment alignés. Ça veut pas dire que ça arrivera jamais. Il y a encore des clubs dans l'Est qui sont ou qui pourraient devenir en difficulté. Je pense aux Panthers de la Floride, je pense aux Islanders de New York. Et plus près de nous, je pense encore aux sénateurs d'Ottawa qui sont peut-être les pas mal plus mal pris même que les Hurricanes de la Caroline, parce que le propriétaire des sénateurs, Eugène Melnyk, a les reins beaucoup moins solides que ceux de Thomas Dundon, qui a fait l'acquisition des Hurricanes, le 52% de l'équipe, et puis que cette transaction-là va être confirmée dans les prochaines semaines. Mais le chien de Québec n'est pas mort. Mais disons qu'il marche sur trois pattes en ce moment.
Ben, tu l'as dit concernant les Hurricanes, Tom Dundon, homme d'affaires de Dallas, devient propriétaire majoritaire à 52%. Valeur de la vente, on dit 460 millions peut-être. Et il y a une condition importante de ne pas déménager l'équipe pour 7 ans. Mais si jamais il déménage l'équipe, on pense tous que cette équipe-là va rester aux États-Unis, hein?
Ben, écoute, première des choses, là, c'est pas une condition spécifique à Thomas Dundon. Ah? Cette condition-là est pour tout le monde. C'est dans les paramètres de la Ligue nationale. T'achètes une équipe, t'achètes le nom, t'achètes l'endroit, t'achètes le marché. T'es obligé de rester là pour 7 ans.
Okay.
C'était vrai pour les Trashers d'Atlanta. C'est vrai pour les Golden Knights de Las Vegas. Ça l'est pour les Hurricanes, puis ça le sera pour peu importe le nom de l'équipe à Seattle, si jamais on voit une équipe qui est à Seattle. Donc ça, c'est pas nouveau. Il y avait des, il y avait de l'information qui coulait depuis quelques semaines, quelques mois, à l'effet que peut-être qu'on donnerait un peu de flexibilité à cette règle-là. Et puis, dans un texte que j'ai écrit il y a 2 semaines, je disais qu'il était possible que après 3 ans, que Dundon puisse, en prouvant à la Ligue qu'il avait tout fait ce qu'il était en mesure de faire pour relancer ce marché-là, qui pourrait échapper aux 7 ans. Mais non, Gary Bettman hier l'a dit, les conditions qui existent depuis toujours dans les cadres de l'expansion ou du rachat d'une équipe sont les mêmes et seront respectées.
Justement, écoutons Gary Bettman.
Tom Dundon is buying his interest in the Hurricanes to have the Hurricanes in Carolina. This is not a team that is being moved. The rumors that it might be moving somewhere else are absolutely incorrect, made up, fabrications, wrong. The club is not going anywhere with Mr. Dundon's purchase.
Alors, c'est très clair, les Hurricanes ne vont pas déménager, mais les Hurricanes ne font pas courir les foules quand même. Est-ce que ça, tout ça là, va raviver la flamme le temps qu'ils soient là?
Ben, écoute, ça va raviver la flamme de ceux qui ne font que regarder les gradins qui sont à moitié pleins ou à moitié vides, peu importe que tu de quel côté tu le prends.
Ouais.
On est rendu en 2018, là, dans quelques jours, Eve-Marie.
Mm-hmm.
En 2018, la situation du sport professionnel, puis je parle pas juste du hockey, là. Je parle du football, je parle du basketball, du baseball, de la Formule 1, tous les sports majeurs au monde. Les gradins remplis, oui, c'est beau à l'œil, mais ce n'est plus la seule source de revenus. Dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, si tu n'attirais pas de partisans dans tes gradins, tu ne faisais pas d'argent parce qu'il n'y avait pas d'Internet, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, parce qu'il n'y avait pas de différentes plateformes sur lesquelles des clients peuvent aller suivre les matchs. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, l'exemple que j'aime donner quand je parle de ça, c'est que il y a 30 ans, il y a 40 ans, la recette au guichet, là, c'était ton bol de crème glacée au complet. Si tu n'avais pas de recette, ben là, tu mangeais ta crème glacée à petite cuillère. Aujourd'hui, la recette au niveau des guichets, c'est la cerise sur ton sundae, c'est les petits brindilles de bonbons que tu rajoutes sur ta crème glacée. La crème glacée, elle vient de partout. La machine, quand tu tires sa poignée, là, ça vient de partout. Les gradins vides, c'est pas beau à l'œil. Ça fait pas plaisir à personne dans la Ligue nationale, même à Gary Bettman. Mais lui, il se dit, puis il dit, et ça, c'est aux gens de le croire ou pas, puis qu'est-ce que tu veux? il y a bien du monde qui le croit pas, mais c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est que les gradins vides, c'est pas beau, mais ça n'empêche pas une équipe de faire des revenus. Pourquoi tu penses que la Formule 1 est partie dans des déserts un peu partout dans le monde, dans des stades, dans des pistes de course puis des amphithéâtres qui ont été créés de
nulle
part?
Parce qu'il y a de l'argent.
C'est ça. Il pourrait avoir pas un chat dans l'épingle à l'autre bout de la course, puis ça change rien. C'est les droits de diffusion qui font vivre la Formule 1, et puis la Formule 1 vit très richement, merci.
François, on dit tout le temps que pour avoir une équipe de hockey, ça prend quelques conditions, dont le marché. C'est sûr que le marché de Québec est pas le plus impressionnant en grosseur. L'amphithéâtre, ça, c'est réglé, évidemment. Et le propriétaire. Est-ce que le fait que ce soit québécois, évidemment, je veux pas te lancer dans une guerre, là, RDS, TVA Sport, loin de là, mm-hmm. mais est-ce que le propriétaire peut, sans dire faire peur, peut moins intéresser les gens du comité exécutif que d'autres propriétaires ailleurs dans des villes potentielles?
Ça n'a pas rapport à sa personnalité nécessairement. Ça n'a pas rapport au fait que Pierre-Carl Péladeau a déjà été candidat au chef du Parti québécois. Ça peut accrocher certaines susceptibilités autour de la table de gouverneurs qu'ils ne connaissent pas. Eux autres, là, c'est des hommes d'affaires. Ils arrivent là autour de la table, ils reçoivent un cahier, puis ils disent « OK, c'est quoi Québec? » Québec, ça nous garantit des gradins remplis. Quoique, tu t'en souviens peut-être, ou tu te l'es fait compter, à la fin du séjour des Nordiques, au début des années 90, c'était pas plein, comme il dit. Puis quand il était plein, ben il y avait bien du billet qui était donné. Ça, il faut pas l'oublier. Alors, quand les hommes d'affaires regardent ça, ils se disent, il y a combien d'argent, ce monsieur-là? Peu importe son nom. Oh, il y a une fortune personnelle comme celle de Dundon, Thomas Dundon. OK, c'est rassurant. Pourquoi on s'en retourne dans un marché comme Winnipeg? Parce que derrière Mark Chipman, il y a la famille Thompson. La famille Thompson, c'est assez riche pour acheter la majorité des propriétaires qui sont autour de la table puis les revendre à crédit. Alors, c'est rassurant. Est-ce que la candidature de Québec par le biais de Pierre-Carl Péladeau est pas rassurante à cause de sa personnalité? Ma réponse, c'est non. Ça n'a rien à voir. C'est une question de perception et de chiffres. La preuve, là, regarde Toronto, Dan. Tu ne peux pas avoir plus gros ennemis que Bell et puis que Rogers.
Ouais.
Mais la tarte à Toronto était tellement grosse, ça coûtait tellement cher que les deux grands patrons ont dit, Gabin, on laisse nos bâtons de baseball à la porte de la chambre d'hôtel, on s'assoit ensemble puis on fait un deal. Alors, les Maple Leafs de Toronto, là, les deux propriétaires, c'est deux compagnies rivales. Puis ils l'ont dit à la conférence de presse, on s'associe pour acheter la compagnie, on est en avant de vous autres, puis on se serre la main. À partir de maintenant, on s'en va dans nos bureaux respectifs, puis on essaye de trouver une façon d'empiceter le voisin. Parce que moi, si je suis Rogers, je veux qu'il y ait plus de clients chez Rogers que chez Bell, et Bell dit, venez sur notre réseau à nous autres. Donc, tu vois, ils servent d'un même produit pour aller chercher des clients. Puis les clients, c'est pas par le biais des gradins, là. Toronto, c'est un des plus petits amphithéâtres de la Ligue au niveau du nombre de sièges, pas au niveau du nombre d'argent que tu payes pour ça. Mais au nombre de sièges, c'est un petit amphithéâtre. Mais les revenus par les tablettes, par l'Internet, par les réseaux, par les sites Internet, c'est tout là. Et puis par la câble de distribution, que tu choisisses Rogers ou Bell, c'est là où ils ont décidé de faire leur argent. Alors, ils s'associent pour mieux se battre.
Ouais. François, faut parler de Seattle, qui décide de rénover son aréna, mais qui se fait dire là, hier, presque officiellement par Gary Bettman, « Bon, ben on va vous en donner une équipe. Hein? »
Ouais, mais garde ça, là, Eve-Marie, il faut pas être surpris. Dan, tu le sais, dans une vie antérieure, j'ai fait souvent des entrevues avec vous autres, puis je vous disais, gardez l'œil sur Seattle. Seattle, c'est le bébé de la Ligue nationale. Ça fait des années qu'on veut s'installer à Seattle, puis on attendait que les As s'alignent. Ça prenait un building rénové ou un nouveau building, c'est sûr, parce que le Key Arena, ça ressemble en ce moment à l'aréna de Brooklyn. Si vous avez regardé des matchs des Islanders, ou mieux, si vous êtes déjà allé là, vous savez que ça s'y prête pas pour le hockey. Tu as des sections où tu vois à peu près rien, c'est un aréna de basketball.
Bon. Avec des rénovations de 600 millions, ça devrait être pas pire après quand même. Là.
Ça va être correct. Hein? Ben alors là, tu as les rénovations de 600 millions, mais tu as aussi les gens qui sont impliqués dans le dossier. Tu sais, tu disais tantôt, est-ce que Pierre-Carl Péladeau, ça peut avoir un effet? L'effet que ça a, c'est qu'ils le regardent un peu comme un étranger. Ils le connaissent pas. Ils veulent apprendre à le connaître. Dans le groupe qui se présente à Seattle, t'as Tom Leweke, qui a été président des Maple Leafs, oui. qui est propriétaire d'une compagnie qui bâtit des amphithéâtres à travers le monde. Le Staples Center, là, c'est AEG qui a bâti ça. Le T-Mobile Arena, c'est AEG qui a bâti ça. Les concessions dans plusieurs amphithéâtres de la Ligue, c'est AEG qui les gère. Donc, il est déjà associé à la Ligue nationale. Jerry Bruckheimer, le producteur de films et d'émissions de télévision, il s'envoie Wayne Gretzky à travers le monde pour aller jouer au hockey les vendredis après-midi ou les dimanches après-midi dans les Rocheuses sur une glace qui fait ranger. Parce qu'il aime le hockey.
Okay.
Donc, tu vois, les conditions sont gagnantes là-bas. Et en plus, t'as Vancouver qui ouvre les bras à grands ouverts puis dit « Enfin, on va avoir un club où on va pouvoir aller jouer en autobus au lieu de passer par-dessus les Rocheuses en avion. »
Oui, puis
ça
ils vont
devient
essayer...
un rival géographique.
Ils vont essayer une rivalité aussi, là, Vancouver-Seattle.
Ben, c'est bien évident. Donc, Vancouver sont contents de ça. Et la Ligue nationale, quand elle regarde la carte de l'Amérique du Nord, elle se dit « Où sont les points d'ombre? Où la Ligue, où on doit aller pour rajouter notre percée sur le marché nord-américain? » Et le nord-ouest des États-Unis, c'était la dernière place où il devait aller.
Bon.
Maintenant, est-ce que ça va marcher? Moi, je crois que oui. Ça va être en 2020-2021, on va avoir une équipe là. Si ça marche pas là, ça pourrait être Houston, parce que t'as Tillman Fertitta qui vient de dépenser 2 milliards 200 millions. Là. 2 milliards! Tu vois comme c'est cher. Pour les Rockets de Houston, qui est un club de la NBA, il a acheté le building avec ça. Puis là, ben, il aimerait savoir une équipe de hockey pour jouer 41 matchs par année pour faire rouler son économie.
Puis lui,
puis il a cogné à la porte, puis il a dit à la Ligue nationale, le jour que vous serez prêt, venez me voir.
Oui, puis là, lui, le 650 millions que ça coûte maintenant pour une franchise, il est capable, lui, là, là.
Oui, puis si jamais c'est 750 dans 5 ans, il va être encore capable. Inquiète-toi.
Il y a des chances que reçoivent les Coyotes par la malle.
Bon, exactement. Ça, c'est bien dit, Dan. Parce que, bon, les Coyotes, on le sait, là, le bail qui les lie à Glendale finit à la fin de la saison actuelle, donc 2017-2018. On va s'entendre que Glendale veut pas payer le chauffage, puis l'éclairage, puis l'électricité d'un amphithéâtre vide. Donc, année après année, les Coyotes pourraient signer un bail annuel, comme n'importe quel locataire du 1er juillet au 1er juillet. Et puis, on fait ça en attendant d'avoir d'autres choses. Mais la Ligue nationale est tannée, là. Ce qu'on veut, c'est que les Coyotes s'établissent à Scottsdale ou au centre-ville de Phoenix, partager un aréna avec les Suns de la NBA. Peu importe le scénario, on veut sortir de Glendale parce que finalement, ça paraît mal pour la Ligue. Si c'est pas à Phoenix et qu'il y a une relocalisation éventuelle, Houston devient ta destination de choix parce que tu restes dans l'Ouest, tu continues à avoir un équilibre 16-16 de chaque côté, ce qui veut dire que pour Québec, si on pense relocalisation, on pense aux Panthers à un moment donné, on pense aux Islanders s'ils n'ont jamais d'amphithéâtre à Uniondale, peut-être les Sénateurs d'Ottawa, mais en dehors de ça, ça prendrait une expansion de 2 clubs, passer de 32 clubs à 34 équipes, puis avec les coûts qui sont associés à ça, honnêtement, ça devient un petit peu utopique.
Ouais. Là-dessus, on écoute Gary Bettman.
The board has authorized us to permit them to file an expansion application. Our plan is just to look at Seattle. All we're doing is accepting Seattle's application. Obviously, there are a lot of differences between Seattle and Quebec City, not the least of which is our alignment.
Alors, il revient avec l'alignement encore, là, la position géographique, là.
Hey, Eve-Marie. J'ai fait je sais pas combien d'entrevues aux États-Unis et au reste du Canada pour défendre la candidature de Québec. Et j'ai toujours dit la même chose par rapport à Québec. Québec, pour moi, là, c'était l'antithèse de Las Vegas. À Québec, tu étais convaincu d'avoir des partisans des gradins. Les gens vibrent en fonction du hockey. C'est naturel d'aller au hockey. À Las Vegas, c'était pas la Ligue nationale n'était pas convaincue. Mais la Ligue nationale était convaincue d'avoir un soutien corporatif. Alors, quand ils ont dit à M. Foley, va faire une campagne là, de sollicitation de billets de saison. Si tu te rends à 13 000, on va te prendre au sérieux. Il s'est rendu à 15 000 dans le temps de le dire. Et là, la Ligue a dit, ah, voici un signal qui nous permet d'avoir confiance. Quand on pense à Seattle, tu penses au siège social de Microsoft, de Boeing, de Amazon, de Starbucks. Il y a de l'argent, là. Il y a des employés là-bas. Il y a beaucoup de fric qui garantissent des revenus. C'est bien évident que si l'équipe est poche sur la patinoire puis qu'elle gagne 25 matchs par année, il va y avoir moins de monde dans les gradins, mais ça, c'est cyclique. Ils savent que le jour que l'équipe va gagner, ben, à ce moment-là, les gradins vont être pleins. Alors, c'est tout ça qui rentre dans l'évaluation ou dans les critères d'évaluation pour un marché de la Ligue nationale. C'est pas juste qu'ils fassent moins 16 dimanches puis qu'il y ait 5-6 bordées de neige, puis qu'on joue au hockey dehors.
Okay.
C'est pas juste ça.
François, qu'est-ce que tu réponds aux gens de Québec qui sont convaincus que Geoff Molson, le grand patron du Canadien, par son influence au comité exécutif, bloque l'arrivée de Québec à la Ligue nationale?
Ben, écoute, je réponds à ces gens-là que c'est toujours, faut toujours trouver un coupable. Avant, c'était Jeremy Jacob. L'année dernière, Geoff Molson est arrivé au comité exécutif, donc là, il devient une cible de choix. Écoute, ben là, je le sais que la bière qui se vend au centre Vidéotron, c'est de la Budweiser. Mais mettons que les Nordiques reviennent, OK? Molson Coors est quand même commanditaire de la Ligue nationale. Et puis, un soir de Canadien nordique, là, il va s'en boire bien plus qu'un soir normal de la Molson à travers le Québec. Okay? Fait que, ne serait-ce que pour ce côté-là, ne serait-ce que pour raviver une rivalité qui va avoir des répercussions sur tout, là. Tu sais, je te disais, les revenus, là, ça dépasse les gradins. Tu vas vendre plus de chandails s'il y a une guerre canadien-nordique. Parce que le beau-frère qui prend pour Montréal, là, qui a taillé, ben, tu vas mettre ton nom dans le dos de ton chandail des Nordiques parce que tu vas vouloir y mettre en pleine face. C'est tout ça, là. Ça a l'air insignifiant, Eve-Marie, de dire un chandail et une casquette.
Non,
mais ça ne l'est pas.
Ça coûte 100 piastres, un chandail là, de la Ligue nationale de hockey. C'est beaucoup, beaucoup d'argent dans le produit dérivé. Ça, je te suis à 100 000 à l'heure.
Un chandail, c'est rien. Mais si t'en vends 50 000 à tous les ans, ben c'est là, ça devient quelque chose.
Oui.
Et c'est ça qui explique que les revenus de la Ligue nationale sont rendus à 4,8 milliards annuellement, puis que le plafond salarial va monter à 80 millions l'année passée. Quand la Ligue nationale a annulé sa saison en 2004-2005, puis on est arrivé avec un plafond à 39 millions, dans ce temps-là, j'étais à l'antichambre. Puis j'ai dit, c'est la planche de salut pour Québec. Avec un plafond à 39 millions, on peut à Québec rivaliser avec Montréal, Toronto, New York, parce qu'ils ne pourront pas dépenser à outrance alors que Québec ne pourra pas les suivre. Mais on est rendu en 2017-2018, puis le plafond va grimper à 80 millions. Ça veut dire qu'il a doublé.
Ouais.
Je veux rien enlever à l'économie de Québec. Là. Je veux dire, rien pantoute. C'est la plus belle ville au monde après Paris. Puis
non, on est conscient. On est conscient qu'on n'a pas une force de frappe.
Ça à Québec? Oui.
Non, je comprends. Je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas le Seattle ou une grosse ville américaine, mais je veux juste revenir sur ton histoire de beaux-frères qui sont bien contents d'une rivalité canadienne-nordique et qui probablement vont demander congé le lendemain du match parce qu'ils seront pas capables d'aller travailler. Geoff Molson a le Québec au complet, François, actuellement. Il y a des compagnies qui vont peut-être changer et acheter des loges corporatives à Québec au lieu d'en acheter au Centre Bell. Comme homme d'affaires, au-delà de la rivalité canadienne-nordique, ça se peut qu'ils perdent de l'argent.
Écoute, le siège social de Desjardins est encore à Lévis, à moins que je me trompe. Là. Je sais qu'il y a bien des gros bureaux à Montréal. Et puis, il y a une section Desjardins à Montréal. Ça ne changera rien qu'il y ait une ou deux ou cinq loges Desjardins au centre Vidéotron. Et c'est ça le problème. C'est que si on se préoccupe de choses comme celle-là, qui dans la globalité de l'économie, là, c'est bien de l'argent une loge, on s'entend, là, Dan. C'est de l'argent pour toi, pour moi, c'est de l'argent pour le 93, c'est de l'argent pour la petite et moyenne entreprise. Mais ces grosses compagnies-là, ils se préoccupent même pas de ça. Tu sais, le président et chef de direction de la Banque Scotia était ici ce matin en Floride pour parler de l'avenir économique du Canada, le dollar à 78, 79 cents, quelles sont les projections si jamais il y a un rejet du traité de libre-échange. Ils viennent de payer 800 millions pour avoir leur logo sur le Centre Air Canada. Le Centre Air Canada à Toronto, tu le vois plus à moins d'être collé dessus tellement qu'il y a des gratte-ciels autour. Penses-tu qu'ils se sont creusés la tête bien longtemps autour de la table du conseil d'administration? Non, et on dit il y a un rendement à aller chercher là, il y a une visibilité à aller chercher là. Go, on négocie puis on paye ça. C'est ça que je veux dire quand je te dis que c'est de la méga finance. C'est pas de la finance au quotidien, à savoir la bière est trop chère à 10 piastres ou à 12 piastres, ou je peux pas me payer le parking à 30 piastres. C'est de la méga finance qui dépasse ça, à commencer par les salaires, puis avec les commandites, puis l'implication des grandes entreprises.
Bon, ben on va reprendre notre rêve de hockey à Québec, on va le remettre dans notre petite valise, puis on va attendre encore quelques années.
Eve-Marie, il y a une affaire que j'ai compris il y a bien longtemps, puis je suis rendu à 55 ans, puis c'est encore vrai. Rêver, ça coûte pas cher, puis ça fait du bien.
C'est beau, ça. Merci, François Gagnon.
Salut, bonne fin de semaine.
Salut, bonne fin de semaine, François Gagnon, chroniqueur à RD.